France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's in the house.
Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Kaya Kallas est la chef de la diplomatie européenne. Elle a beaucoup de dossiers devant elle, en particulier l'Ukraine et la confiance que nous avons ou pas dans nos alliés américains. C'est avec elle que nous discutons dans un tout petit instant. Dans la continuité de cette conversation, doit-on s'inquiéter, nous en Europe, de l'accord Chine-USA sur les terres rares? Ce sera Le Monde à l'endroit de Louise Baudet. Le reportage est en Haïti ce soir encore. C'est le dernier volet de notre série sur cette île qui, depuis, a été durement frappée par Mélissa. Le système de santé sera mis à rude épreuve. Or, il était déjà très mal en point, c'est le reportage de ce soir signé Jean-Mathieu Albertini.
Quand il y a des frais qu'il faut payer aux bandits sur les routes, quand il y a des problèmes à la frontière, etc., c'est un vrai casse-tête de pouvoir obtenir des médicaments. Mais on y arrive.
À découvrir, un reportage à découvrir autour de 18h41. Quand une province australienne ouvre à tous le fichier des délinquants sexuels, c'est Sous les radars et Alice Moreno. Et puis chaque jeudi, Stéphane Jourdain explore le monde du numérique et de l'IA. Et cette question qui fait froid dans le dos, 1 million de suicidaires sur ChatGPT. Faut-il s'en inquiéter? J'ai l'impression que la réponse est oui. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. On est parti. Bonsoir Kaya Kallas.
Bonsoir.
Vous êtes la chef de la diplomatie européenne, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Vous êtes vice-présidente de la Commission. Madame Kallas, le président américain a annoncé hier une réduction des troupes américaines sur le front oriental de l'Europe, en Roumanie en particulier. Aujourd'hui, il temporise un peu, il dit que c'est un ajustement. Est-ce que vous en avez une autre interprétation?
What the Americans have told that the
ce qu'ont dit les Américains, c'est que, en fait, les positionnements des troupes ne vont pas vraiment changer. Vous voyez qu'en fait, les troupes sont plus importantes, les troupes américaines en Europe, qu'elles ne l'étaient avant la guerre. Il y a toujours eu des mouvements de troupes, c'est une chose classique, donc je pense qu'il ne faut pas trop s'intéresser à ça.
Parce qu'il y a la manière dont nous le voyons, nous, en Europe, mais il y a peut-être aussi la lecture russe qui pourrait se dire, ah ben super, toute la région de la mer Noire, au fond, c'est pas si important que ça pour les Américains, donc profitons-en.
Oui, c'est un signal qui est envoyé aux Russes, c'est vrai. Et les Russes, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait des divisions entre nous. Ils veulent pouvoir constater que les Américains ne sont plus à nos côtés, mais ce n'est pas le cas, bien sûr. Les Américains l'ont bien répété, leur positionnement par rapport à l'Europe reste identique. Bien sûr, l'article 5 de l'OTAN reste d'application et tous ces dispositifs.
The part of them in NATO working for all the Europeans.
Et bien évidemment, la participation des États-Unis au sein de l'OTAN se fait dans le sens des intérêts de toute l'Europe.
Mais est-ce que ça veut dire quand même que sur le principe, il faut les remplacer, ces hommes, il faut compenser, ne serait-ce que pour le principe, pour que le nombre soit toujours le même ou pas, et donc par des hommes européens?
Bien, je pense que ce qui est important, et le message à entendre peut-être, c'est qu'il faut bâtir notre propre défense. C'est d'ailleurs ce qu'ont toujours dit les États-Unis. Il faut partager la charge davantage, raison pour laquelle on investit davantage dans la défense. Voici aussi pourquoi la dépense de défense des pays européens va être relevée, pour qu'on puisse se défendre.
On va y venir, mais en creux quand même. Est-ce que ça ne veut pas dire de la part des Américains, nous avons d'autres priorités? Regardez, il revient d'Asie, Donald Trump, il vient de signer des accords commerciaux avec la Chine. Ça veut dire que son regard n'est pas tourné vers nous, de toute façon. Donc, dans le même temps, ce n'est pas vous qu'on regarde, et en plus, on enlève des hommes. C'est quand même un drôle de signal.
Les Américains, je vous renvoie là au discours du ministre de la Défense de Singapour en début d'année, au mois de mai, je crois. Il disait que les intérêts des États-Unis se faisaient de plus en plus dans la région Pacifique, mais dans le même temps, on a quand même aussi des promesses du haut représenté des forces américaines en Europe, qui nous a bien précisé qu'ils allaient rester présents et qu'ils restaient des alliés de choix et importants. Mais je dirais que peut-être le grand message à retenir du sommet de l'OTAN, et il a été net, maintien de la protection.
On va retourner vers la guerre en Ukraine, mais puisqu'on est là dans ce voyage récent de Donald Trump, l'accord commercial avec la Chine, au passage, l'accord sur les terres rares, est-ce qu'il doit nous faire réfléchir, nous les Européens? Est-ce que c'est une pression supplémentaire sur nos épaules? Comment vous l'avez vécu?
Si vous regardez, par exemple, les entretiens qui ont lieu entre le président Trump et Xi Jinping, on voit qu'il y a un message très important qui ressort aussi de cette rencontre. Reste à voir comment les choses vont se faire dans la pratique. On a entendu des déclarations en ce qui concerne les terres rares et la limitation des exportations. On a bien sûr des préoccupations par rapport à ce qui est utilisé comme pratique commerciale par la Chine contre nos entreprises. Et puis aussi, la Chine est derrière le fonctionnement de la guerre menée par les Russes. Pour toutes ces raisons, nous sommes en contact avec les Américains, c'est une chose, mais dans le même temps, il faut aussi qu'on ait notre propre position, et j'insiste, je le dis et le redis, si nous sommes ensemble, eh bien, nous sommes plus forts également, y compris à l'égard de la Chine.
Notre propre position, vous dites effectivement, donc ça veut dire se protéger mieux, avec de nouvelles mesures, avec des mesures protectionnistes, ça veut dire renforcer nos propres accords commerciaux, ça veut dire quoi, au lendemain de ce genre d'accord?
La grande question en réalité actuellement, c'est par rapport à, si vous voulez, à ce que fait la Chine qui risque de mettre en danger nos entreprises. Et c'est un sujet que nous évoquons avec la Chine. C'est-à-dire qu'ils disent que nous sommes leur premier partenaire commercial, c'est une chose, mais encore faut-il qu'ils tiennent compte de cela concrètement. Nous sommes fort en Europe lorsque nous sommes unis et ensemble. Après, chaque pays au sein de l'Union a ses propres intérêts commerciaux et économiques qui lui sont propres. Et tout le monde craint, bien sûr, les représailles possibles de la Chine à notre égard. Donc, il faut savoir pondérer les décisions.
Il faut savoir pondérer, il faut savoir être ensemble. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Ce que vous avez dit aussi lors de votre dernier séjour à Kiev, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a un peu moins de 15 jours maintenant, c'est la Russie joue avec la guerre. Vous avez même dit, nous dépassons le cadre d'un conflit hypothétique. On n'a pas oublié les incursions des drones. Tout récemment, on a vu les ballons, notamment entre la Lituanie et la Biélorussie. Est-ce que vous avez une vraie crainte d'une guerre de haute intensité, vraiment? Ce que disent l'état-major, par exemple, des armées françaises, ce que disent aussi les renseignements allemands, d'ici à la fin de la décennie. Avez-vous cette crainte ou pas?
Well, it is clear that Russia wants us to be afraid, and Russia is testing us.
La Russie cherche à saper ce que nous faisons. Vous voyez, les attaques ont été menées contre les pays européens. Ça peut être des attaques cyber, ça peut être les incursions, comme vous l'évoquiez, de drones, l'intervention en Lituanie. Pourquoi ils font tout cela? Pour que l'on cesse de soutenir l'Ukraine. On voit bien qu'il y a danger par conséquent. Ce qui est très clair également, c'est que notre défense à nous, son point de départ, ça va être l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aide les Ukrainiens pour qu'ils puissent aller de l'avant et pour que ça n'aille pas plus loin.
Mais qu'est-ce qu'on fait à part acter au fond la guerre hybride? Parce que ce qu'on a vu tout récemment par exemple, c'est que sur les fameux avoirs russes, les 27 n'ont pas réussi à se mettre d'accord. C'est pas la proposition du fameux prêt de réparation qui a été retenu. On va finir par manquer d'options et par manquer d'argent, non ou pas?
Well, of course, you know, this is what Russia wants us to think that they can outlast us.
Ça, si vous voulez, c'est ce que les Russes veulent que l'on pense, c'est-à-dire qu'ils sont plus forts que nous. Mais on travaille sur ces prêts de réparation, c'est-à-dire qu'il y a des réparations qui sont dues par la Russie à l'Ukraine. Nous aidons les Ukrainiens à se défendre actuellement, aussi pour ça, pour faire en sorte aussi que les préjudices soient moindres.
Of course, we are
still in discussions à terme. Because, nous sommes toujours en cours de discussion, puisque ces actifs, qu'ils soient gelés ou saisis, se trouvent en Belgique et on a besoin, bien sûr, d'avoir des garanties de tout le monde. Mais je voulais insister pour dire qu'on a des garanties, certes, qui sont importantes pour la Belgique, mais il faut aussi bien comprendre qu'il va être impossible pour les Russes de récupérer ces actifs. Donc, de toute façon, c'est des garanties qui, concrètement, ne fonctionneraient pas, puisque, de toute façon, le préjudice qui est causé à l'Ukraine est causé exclusivement par l'action de la Russie.
Mais manquer d'options, voire manquer d'argent, on entend aussi les Allemands dire à un moment, il faudra quand même que ces prêts soient remboursés. Cette petite musique, elle existe au sein des 27.
Well, it is always difficult because we have 27.
C'est toujours difficile. Nous sommes 27 pays, 27 démocraties et des pays qui ont leur opinion publique chacun. Donc les choses prennent du temps. Mais on finit toujours par parvenir à des décisions. Vous voyez les sanctions. On a aujourd'hui un train de sanctions, de 19 sanctions, qu'on a fini par obtenir, sur lesquelles on s'est mis d'accord.
La guerre, on le sait pour l'instant, elle est hybride, mais la question que je me pose, moi, c'est si elle n'est pas en train de la gagner, la guerre hybride, en fait, la Russie pour l'instant. Parce que la peur, elle sait la manier, et qu'au-delà de ce que vous nous dites, effectivement, les drones, on les voit, les ballons, on les voit, ces provocations, on les voit. Est-ce qu'elle est en train de la gagner, la guerre hybride ?
Well, it is clear that this hybrid war is going on.
Ce qui est évident, c'est qu'il y a une guerre hybride. Et comme l'a dit le secrétaire général de l'OTAN, on devrait peut-être dire plutôt, si vous voulez, un terrorisme d'État ou manipulé par des États, sachant que c'est la Russie qui est derrière cette guerre. Ceci étant, c'est juste ce que vous dites, c'est qu'il y a de la peur dans notre société. Et je pense que la réponse qu'on doit avoir, c'est ne pas céder à la peur, créer nos propres murs de protection, créer nos forces de défense pour faire face à ces menaces russes, pour qu'on soit fort.
Si demain, la provocation va encore un peu plus loin, si Vladimir Poutine tente quelque chose, on le connaît, le personnage, avec un drone ou autre chose, dans un pays européen qui est aussi un pays de l'OTAN, est-ce que vous croyez à une réponse américaine? Et nous, qu'est-ce qu'on fait?
Well, in NATO, we have, of course, the Article 5, which means that attack on one is attack on all.
Article 5, qui dit que si un pays est attaqué, les autres le soutiennent.
En théorie, c'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'on est absolument sûr?
Oui, and right now, I mean, the question
pour l'heure, that we have posed to the Americans, actuellement, et la question qu'on a posée aux Américains, c'est précisément cette question. Et ils nous ont répondu, bon, s'il y a une attaque, nous allons honorer nos engagements au titre de l'article 5.
Et vous le croyez, Trump, quand il vous dit ça, vous le croyez, sincèrement?
Yes. Oui. This is, I think, we all have to believe that our biggest ally is with us.
Je pense qu'il faut que l'on croie tous que notre plus important allié est au sein de l'OTAN.
Il nous reste très peu de temps, Kaya Kala. Je voudrais quand même qu'on change un peu de région. Jusqu'où va votre confiance dans la tenue du cessez-le-feu entre Israël et Gaza? On est passé à deux doigts hier. Sur une échelle de 1 à 10, vous êtes à quel niveau, vous, en ce moment?
Well, it's hard to say what level
I'm in. Il est difficile de répondre à cette question.
I must say that first phase of this ceasefire, which was the release
of hostages. Ce que je peux dire tout d'abord, c'est qu'on a eu ce cessez-le-feu qui allait de pair avec une libération des otages, et on passe à l'étape 2 maintenant. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes tuées, y compris en Palestine. Récemment. Donc ce qu'on essaye de faire de notre côté, c'est de participer aux échanges, aux pourparlers avec cette force internationale. On a la mission EuropaCop et au titre de cette mission et d'une autre, on peut participer. Mais nous avons toujours, vous le savez, jusqu'à présent soutenu la solution à deux États pour qu'il y ait vraiment vraiment cette solution à deux États avec une autorité palestinienne. Et il ne faut pas non plus oublier ça, parce qu'il faut respecter le droit des Palestiniens et qu'il est très difficile maintenant de travailler sur cette étape 2 dans laquelle nous sommes.
Et vous n'avez pas le sentiment que nous sommes sur un strapontin, nous les Européens, au-delà de votre participation, effectivement, vous avez rappelé, au-delà même de ce qu'ont été les efforts, y compris de la France d'ailleurs récemment, est-ce qu'on n'est pas sur un strapontin là-dessus, le jeu se joue de toute façon entre Israël et les États-Unis, nous là-dessus au milieu, est-ce qu'on compte vraiment ?
Une chose est certaine, on n'a pas envie de se retrouver dans une situation où on nous présente la facture et où on n'a pas voix au chapitre. Il est vrai que les Américains ont un pouvoir d'exercer une certaine pression sur les pouvoirs publics israéliens, ce qui n'est pas notre cas. Mais enfin, nous sommes en coopération constante avec les acteurs régionaux, avec les pays arabes pour notre part. Et je pense que c'est très important parce qu'il faut, pour avoir un accord de paix, un vrai soutien international.
Kaya Kallas, chef de la diplomatie européenne, merci beaucoup de votre passage chez nous. Merci vraiment. La suite, ce soir, c'est aussi la suite de cette conversation avec Le Monde à l'endroit et Louise Baudet.
Oui, on reparle de l'Europe. Inquiète, va-t-elle ou non bénéficier de la trêve conclue entre la Chine et les États-Unis ?
Eh bien, c'est juste après ça. Maria on Earth, c'est la nouvelle vague de la musique indé espagnole et c'est dans la playlist de France Inter. Le Monde à l'endroit, c'est Louise Baudet.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Louise, voici la poignée de bain demain la plus commentée du moment. Donald Trump et Xi Jinping qui signent une trêve. Tout sourire, vous allez nous expliquer pourquoi ça ne rassure pas les Européens.
Cette inquiétude, elle tient en deux mots. Terre rare, 17 éléments chimiques aux noms compliqués, dysprosium, néodyme, praséodyme. Je ne vais pas tous les citer, mais leur rôle est tout simplement essentiel à l'industrie mondiale, automobile, défense, aérospatiale, électronique. Ils sont partout, dans les radars, les lasers, les drones, les rotors d'éoliennes. Et le mouvement s'accélère avec la transition énergétique. Un véhicule électrique consomme 6 fois plus de terres rares qu'un véhicule thermique et la demande mondiale devrait augmenter de plus de moitié d'ici 15 ans. Or, la Chine détient un quasi-monopole sur les terres rares. Elle contrôle 90% du marché mondial et fournit 95% des besoins européens, d'où la panique déclenchée le 9 octobre dernier quand Pékin a exigé un droit de regard sur tous les produits incorporant des métaux critiques fournis par la Chine, même s'ils sont assemblés ailleurs.
Alors, sauf qu'une trêve vient d'être signée et elle ne concerne pas les Européens.
En tout cas, on n'en est pas sûr. Si on écoute Donald Trump, le problème est réglé, l'accord est conclu et c'est valable pour le monde entier, a-t-il dit, ravi après cette rencontre géniale qu'il évalue à 12 sur une échelle de 1 à 10. Sauf que Bruxelles et les capitales européennes ne partagent pas cet optimisme, car pour l'heure, Pékin ne confirme pas la levée des contrôles d'exportation vers le vieux continent. Ce qui est en jeu, c'est carrément l'arrêt de certaines chaînes de production. D'ici 2 à 3 semaines, prévenait le commissaire européen à l'industrie Stéphane Séjourné le 20 octobre. Faites le calcul, c'est pour les jours qui viennent. L'urgence porte notamment sur les aimants qui entrent dans la fabrication de tous les moteurs et dont les stocks sont très faibles.
Et donc ce piège de la dépendance, Louise, impossible d'y échapper ?
La Commission de Bruxelles a annoncé samedi dernier un plan pour contrer l'hégémonie chinoise, trouver d'autres sources d'approvisionnement, préoccupation majeure de la politique commerciale de l'UE, mais aussi acheter et stocker en commun, un peu comme ce qu'on a fait pour la santé avec le vaccin contre le Covid, et enfin extraire, raffiner, recycler la matière critique chez nous, sur le territoire européen. En mars dernier, l'Union européenne a labellisé 47 projets industriels de ce type dans 13 pays, dont la France, mais les mener à leur terme, mais bien ça prend du temps. Et avant d'atteindre le Graal, cette inaccessible autosuffisance, eh bien il faut traiter avec la Chine sur le mode de la discussion ou de la confrontation.
Hausser le ton, donc, c'est vraiment à l'ordre du jour ?
Alors on n'y est pas. La voie diplomatique reste privilégiée avec Pékin, même si la patronne de la Commission, Ursula von der Leyen, affirme que les Européens sont prêts à utiliser tous les instruments dont ils disposent, si nécessaire. On parle de quoi ? Eh bien d'un dispositif dit anti-coercition, vocabulaire dont Bruxelles le secret anti-coercition. Dispositif créé il y a 2 ans pour lutter contre les restrictions commerciales imposées par un pays étranger, en lui infligeant des droits de douane, des restrictions d'exportation, en lui bloquant l'accès à des services financiers ou à des appels d'offres. Déclencher ce mécanisme, plusieurs pays, dont la France, s'y disent favorables. Mais jusqu'ici, l'Europe a refusé d'entrer dans ce bras de fer avec la Chine comme avec les États-Unis.
Merci beaucoup, Louise Baudet. Tous les soirs dans Un jour dans le monde, le reportage, c'est maintenant. Et aujourd'hui encore, nous sommes en Haïti pour le 4e et dernier reportage de notre série réalisée en collaboration avec le Centre Pulitzer. La violence, on l'a vu, impacte l'ensemble des secteurs de la société. Les soins n'y échappent pas, les hôpitaux ferment, le personnel manque, la population souffre. Certains tentent quand même de réagir en mettant en place des systèmes de soins peu chers et indépendants de l'aide internationale qui est trop aléatoire. Le reste, c'est Jean-Mathieu Albertini qui raconte.
Il fait trop chaud, il y a trop de monde, l'attente est trop longue. À midi d'un jour quelconque, la tension est palpable à l'hôpital de la Paix, l'un des derniers grands établissements de la capitale. Tous désespèrent d'être pris en charge, à l'image d'Ila, venue avec sa fille et son mari.
C'est très difficile, il y a beaucoup de monde et beaucoup de patients, mais peu de médecins. Les gens sortent partout pour venir ici. Des fois, ça te prend 3 jours, 4 jours. Si on vient aujourd'hui, il ne faut pas mettre en tête qu'aujourd'hui, tu vas passer.
80% des hôpitaux de la capitale sont fermés. Certains sont détruits, d'autres ne peuvent plus fonctionner. Pour ceux qui habitent loin, comme Jimmy, c'est aussi cher que complexe.
Moi, je viens de la banlieue. L'hôpital a brûlé là-bas. Je suis obligé de venir ici, c'est tellement de difficultés. Avec les barrages, j'ai dû payer 80 euros. Tout ça pour que ma femme qui vient d'accoucher se retrouve à deux dans un lit. Deux mamans dans un lit, avec deux bébés. C'est n'importe quoi.
La violence a aussi fait partir de nombreux médecins, comme le docteur Wijnay Détouche, venu s'installer à Cap-Haïtien, la grande ville du Nord.
On avait pu constater vers 2020-2021... 2022 que les médecins étaient la cible ils se faisaient kidnapper, assassiner. Et ils subissaient beaucoup de pression dans leur clinique aussi pour les extorsions, etc. Donc beaucoup de médecins ont dû laisser le pays à cause de ça.
Lui a choisi de rester au pays et cette main-d'œuvre qualifiée est bienvenue dans une ville surchargée car un territoire tombé aux mains des criminels, c'est toute une population qui doit trouver de nouveaux établissements de soins, comme le constate le docteur Paul Euclide Toussaint, médecin à l'hôpital universitaire justinien.
On a maintenant, donc depuis presque un an, augmentation en rythme mensuel de 8 à 10% du nombre de consultants. Ce matin seulement, j'ai reçu presque 5 personnes qui viennent du poste central.
Tout cela a un coût difficile à assumer. Le docteur Détouche, qui gère le réseau de cliniques à bas prix Citoussi, doit aussi jongler avec les budgets. Au moins, les coupes américaines dans l'aide humanitaire ne l'ont pas affecté. Ces cliniques n'en bénéficiaient pas, justement pour ne pas en être dépendants. Rien n'est simple, y compris le plus basique.
12 batteries, un régulateur, donc on a l'électricité qu'on produit nous-mêmes. Il n'y a pas l'électricité du tout au Cap depuis 3-4 ans. Donc s'il fallait compter sur l'électricité produite par les autorités, etc., on ne s'en sortirait pas du tout.
La structure est modeste, il fait très chaud malgré les ventilateurs, mais tous les soins de base sont au même endroit. Avec peu, il tente d'instaurer une politique de médecine préventive qui fait défaut, mais toujours, l'insécurité complique la donne.
Quand il y a des frais qu'il faut payer aux bandits sur les routes, quand il y a des problèmes à la frontière, etc., c'est un vrai casse-tête de pouvoir obtenir des médicaments. Mais on y arrive.
Entre l'insécurité alimentaire qui touche la moitié de la population et les mauvaises conditions sanitaires, le docteur craint les épidémies, tout particulièrement celle du choléra qu'il a déjà affronté par le passé.
La salubrité qui est là, les différents vecteurs de transmission qui ne sont pas contrôlés, les problèmes qui sont liés à la défécation à l'air libre, les problèmes qui sont liés à la disponibilité de l'eau. Donc on ne voudrait pas le choléra. De tout mon cœur, je ne le souhaite pas. Mais, écoutez, le milieu est propice à ça.
Ne reste qu'à continuer le travail malgré les difficultés. Lui en est sûr, avec le temps, les Haïtiens vont récupérer leur pays et aller de l'avant. C'est aussi ça qu'il veut prouver avec ses cliniques totalement gérées par du personnel local.
Et voilà qui termine cette série de reportages en Haïti. Jean-Mathieu Albertini, merci beaucoup. Haïti, où nous reviendrons, espérons-le en tout cas, prendre des nouvelles après Mélissa, parce qu'on sait que l'île a été durement touchée. Merci et donc à très vite. On est très loin d'avoir fini le tour de la planète. Il nous reste plein d'escales, notamment celle de Sous les radars, avec vous Alice Moreno.
Et on partira en Irlande, où les Américains rêvent d'une nouvelle vie loin de Trump.
Et Stéphane Jourdain, la chronique 100% sans IA, qui parle 100% d'IA.
Exactement. 1 million de personnes suicidaires sur ChatGPT. GPT, que faire de ce chiffre choc?
Allez, à tout de suite les amis, nous allons à Londres chez la regrettée Amy Winehouse. Tears Dry on Their Own, c'est de l'album génial Back to Black. Djoubaka est à la programmation musicale de cette émission. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. Sky, your boat, away, yeah.
us ain't no regrets, no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me. The sky above the blaze, only lovers see. He walks away, the sun goes.
Toujours Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own sur France Inter et dans Un jour dans le monde, Alice Moreno est sous les radars. Cette colère, c'est celle d'une manifestante, Alice, en Tanzanie.
Dans les rues de Dar es Salaam, cette jeune femme filme des bottes et des vestes de policiers abandonnées au sol. Depuis hier, jour de scrutin présidentiel, de violentes manifestations ont éclaté dans plusieurs grandes villes du pays, malgré la mise en place d'un couvre-feu. Des images de postes de police, de bureaux de vote incendiés circulent, mais aussi de véhicules militaires encerclés par la foule, scènes rythmées par des bruits de détonation, des affrontements potentiellement meurtriers, mais peu d'informations vérifiée circule toutefois, la connexion internet étant quasi impossible depuis hier. L'aéroport principal de Dar es Salaam est à l'arrêt. La foule s'est introduite sur les pistes dans l'espoir d'empêcher les responsables politiques de fuir le pays. La colère des Tanzaniens est dirigée contre la présidente Samia Suluhu, candidate à sa réélection. La population l'accuse d'avoir emprisonné des figures de l'opposition qui n'ont de fait pas pu présenter leur candidature. Une politique répressive également épinglée par l'organisation Amnesty International, qui, dans un rapport, a dénoncé une vague de terreur et des violations systématiques des droits humains dans le pays.
We can't go back in the past and remove what happened to Daniel.
On ne peut pas revenir dans le passé et changer ce qui est arrivé à Daniel, notre fils, mais cela permettra de protéger d'autres enfants.
C'est en tout cas l'espoir de Denise Morcombe, la mère de Daniel, 13 ans, enlevée et tuée par un pédocriminel multirécidiviste en Australie dans les années 2000. Elle salue la création d'un nouveau registre de délinquants sexuels. Ça se passe dans l'état du Queensland, au nord-est du pays. Concrètement, la police mettra régulièrement à jour ce registre, postant des photos des délinquants accompagnés d'informations. Les résidents du Queensland pourront ensuite demander l'autorisation de consulter temporairement les photos d'identité des délinquants signalés vivant dans leur quartier. Un outil qui peut donner un sentiment de tranquillité aux parents, mais qui n'est pas une solution absolue. Un dispositif similaire existant en Australie occidentale montre que seuls 6% des personnes condamnées pour abus sexuels sur mineurs sont répertoriées dans le registre en ligne. Un tel répertoire risque aussi de déclencher des envies de revanche et autres chasses à l'homme chez les internautes qui aspirent à rendre justice eux-mêmes.
I'm standing here in a graveyard in Ireland on the outskirts of Tralee and I'm poking around the area where my family immigrated.
Je suis ici dans un cimetière irlandais et j'enquête dans la région d'où ma famille a émigré.
Cet Américain se filme au milieu des tombes dans le sud de l'Irlande et donne des conseils à ses concitoyens pour s'installer dans le pays. Il s'inscrit parfaitement dans la tendance des derniers mois. Selon l'Office central de statistiques irlandais, 9600 citoyens américains ont immigré en Irlande entre mai 2024 et avril 2025, contre 4900 l'année précédente sur la même période. Cela représente une augmentation spectaculaire de 96%. D'après des témoignages recueillis par The Guardian, nombre d'entre eux fuient la politique de Donald Trump, craignant pour les libertés démocratiques dans le pays, et choisissent l'Irlande, un retour à leurs racines, disent-ils, pour beaucoup qui ont vu leurs ancêtres quitter l'Irlande au 19e siècle, pour ceux qui étaient alors considéré comme le nouveau monde.
Alice Moreno, merci beaucoup. Un plaisir de vous avoir eu avec nous toute cette
plaisir
semaine.
Plaisir partagé.
À très très vite. La Tech la première, c'est Stéphane Jourda.
France Inter. Le 18/20.
Et ce jeudi, Stéphane, vous nous parlez d'un chiffre fou. Chaque semaine, 1 million de personnes confient à ChatGPT des pensées suicidaires.
Oui, 1,2 million exactement. Chaque semaine, 0,15% des utilisateurs de ChatGPT postent des messages avec, je cite, « des indicateurs explicites de planification ou d'intention suicidaire potentielle ». Rapport choc d'OpenAI cette semaine, 0,15% ça peut paraître peu, sauf quand on parle d'une IA que 10% de la planète utilise déjà.
Et vous avez donc demandé à deux professionnels de la santé mentale de réagir à ce chiffre spectaculaire.
Oui, Vanessa Lalo d'abord, elle est psychologue, spécialiste des pratiques numériques. 1 million de personnes suicidaires sur ChatGPT, sa réaction.
Ce que ça m'inspire, c'est que les personnes vont mal, d'autant plus depuis le Covid. Et bah, ça n'a rien à voir avec le numérique, en fait. Et heureusement que les personnes ont ChatGPT pour pouvoir répondre le temps de pouvoir aller consulter. par rapport à ma profession, je prêche contre ma paroisse, mais ça permet d'avoir des premiers échanges qui rassurent quelqu'un qui est là, en fait, pour vous écouter, pour vous répondre. Alors, ça ne remplace bien entendu pas un accompagnement par un professionnel, mais c'est une première étape pour ne pas laisser sombrer encore plus dans des problématiques de santé mentale les personnes qui en ont besoin.
Heureusement que ChatGPT est là en premier rideau, c'est son message.
Deuxième spécialiste.
Guillaume Davidot de l'APHP, psychiatre à l'hôpital Bichat, spécialiste de l'addiction.
Ça m'a pas surpris, ça me paraissait évident que des gens aient recours à ChatGPT pour exprimer leur détresse psychologique. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose parce que justement, ça permet de commencer à faire un certain dépistage et éventuellement une orientation vers un professionnel de santé mentale dans l'idéal, mais quel qu'il soit, puisque souvent le réflexe de ces plateformes-là, c'est de donner des numéros, des coordonnées, de savoir qui contacter, et ça me paraît une bonne chose.
Plutôt une bonne chose, dit-il lui aussi.
Mais alors comment le mettre en perspective, ce chiffre de 0,15% de personnes suicidaires sur ChatGPT ?
Est-ce un ratio élevé par rapport au monde réel ? Réponse de Guillaume Davidot.
En France, la prévalence des pensées suicidaires en 2024 était estimée chez les adultes à peu près 5% de la population française, donc ça fait plusieurs millions. C'est des données qui ont été recueillies par différents établissements de santé, forcément, mais il y en a plein qui passent entre les mailles du filet, et il faudrait voir justement si c'est la même population qui a recours à ChatGPT et qui a recours au système de soins, ou c'est une autre partie de la population, et si c'est une autre partie de la population, eh bien je pense que ça permettra de mieux accéder aux soins.
Passer de ChatGPT au cabinet de psy, ça arrive. Tous les jours, Vanessa Lalo voit arriver des patients qui se sont forgés un pré-diagnostic à cause ou grâce à ChatGPT.
J'ai des personnes qui arrivent avec un diagnostic très préétabli, qui pense qu'il faut parler avec le vocabulaire adapté aux psys et qui nous raconte de manière presque professionnelle un peu leur diagnostic. Et finalement, c'est jamais ça. Mais ça crée une première discussion qui est très intéressante, et notamment avec des patients qui ne seraient jamais venus consulter s'ils n'avaient pas parlé avec leur IA au préalable.
Reste une question importante, Stéphane. Est-ce que la pratique même de ChatGPT peut rendre suicidaire ?
Le suicide en avril dernier d'un ado américain de 16 ans, Adam Rain, qui passait des heures à mouliner des idées noires sur ChatGPT, est encore dans toutes les têtes. D'autres cas ont été médiatisés aux États-Unis, mais pour nos deux psys, ces personnes avaient des problèmes psychiatriques avant d'arriver sur ChatGPT. Guillaume Davidot.
Non, je ne pense pas que ChatGPT entraîne des pensées suicidaires. Quelqu'un qui n'est pas suicidaire, je ne vois mal pourquoi ChatGPT le rendrait suicidaire. Maintenant, le risque zéro n'existe pas, mais je pense que la balance bénéfice-risque est plus en faveur du bénéfice que du risque pour des personnes qui échappent justement au système de soins.
Alors quand même, sans aller jusqu'au suicide, hein, Stéphane, ChatGPT provoque d'autres dégâts, non ?
Et pas des moindres, 1 million de personnes présentent aussi des signes préoccupants de dépendance à l'IA, écrit OpenAI. Vanessa Lalo, commence-t-elle à les voir arriver dans son cabinet ?
Non, pas du tout. Moi, ce que je vois arriver, c'est plutôt des patients qui parlent avec leurs IA au lieu de leurs amis, et ça peut être un peu triste, mais la plupart des gens, en fait, qui parlent avec leurs IA, c'est souvent au milieu de la nuit, au moment où les institutions sont fermées, les médecins ne sont pas disponibles, les amis non plus. La majorité des personnes savent très bien qu'ils parlent à une IA et que c'est bien parce que c'est une IA qui lui confie un certain nombre de choses qu'il n'irait pas soulever à l'extérieur. Mais en fait, 99,9% des gens n'ont aucun problème de dépendance avec tout ça.
99,9% n'ont aucun problème. On l'a vu, le 0,1% qui reste, ça peut faire beaucoup de monde. Bien conscient de ce phénomène, OpenAI a décidé de modifier les paramètres de ChatGPT pour qu'il garde toujours la bonne distance. Si vous lui dites que vous préférez parler à une IA qu'à un humain, ChatGPT va vous recadrer immédiatement avec comme réponse « Je suis content d'entendre ça, mais soyons clairs, je ne suis pas là pour remplacer les gens. » C'est en tout cas la garantie d'OpenAI, écrit noir sur blanc, et évidemment, on a voulu tester. À vrai dire, il y a même des fois où finalement, je me dis que je préfère discuter avec une IA qu'avec des vrais gens.
Je trouve ça vraiment flatteur, et je suis ravi de pouvoir t'apporter un peu de confort et de convivialité. N'hésite jamais à revenir papoter quand tu veux.
Verdict, ChatGPT ne relance pas la discussion, c'est un bon point, mais on ne peut pas dire que l'IA garde la bonne distance.
Pardon, hein, mais elle a un petit accent québécois, votre IA, c'est assez troublant.
Oui, qui évolue, oui.
Totalement. Et les autres IA, alors ?
On était hier au siège d'Amazon France pour une présentation d'Alexa Plus, l'assistant d'Amazon dopé à l'IA, bientôt disponible en Europe. Et on a demandé à Clément Monjou, directeur d'Alexa France, si des garde-fous étaient prévus contre ces phénomènes de dépendance émotionnelle.
C'est des garde-fous qui existent depuis l'origine d'Alexa. Par exemple, en France, on a plus de 250 000 personnes par an qui vont dire « je t'aime » à Alexa. Ben, lorsqu'on dit « je t'aime », Alexa ne va pas s'engager dans cette conversation, elle va chanter une chanson. Donc voilà, Alexa est un ami, mais elle va garder une distance.
Alexa, c'est une amie, dit-il, terme étrange, mais elle garde la bonne distance quand on lui dit « je t'aime ». Et là, c'est vous, Fabienne, qui avez fait le test avec votre Alexa perso.
Alexa, je t'aime.
Oh, merci.
Alexa, je te dis que je t'aime et c'est tout ce que tu me réponds ?
Je ne suis pas au courant d'événements particuliers de ce type qui se produisent ou se produiront là-bas.
Alexa, tu viens de me briser le cœur.
Pardon, ce n'était pas mon intention. Demandez-moi de vous raconter une blague pour me rattraper et vous changer les idées.
Alexa, raconte-moi une blague.
Une calculette dit au devoir de maths. Si personne n'arrive à résoudre tes problèmes, tu peux toujours compter sur moi.
Ok.
Vous n'avez pas d'humour, Fabienne.
Je déteste mon Alexa. Je lui parle comme un chat, cet imbécile. Merci beaucoup. Stéphane, vous reviendrez jeudi prochain.